Pendant la nuit, il entend une voix qui lui dit de se lever alors qu'il est dans un des hospices de Lourdes pour les pèlerins. Il est venu en pèlerinage. Et la voix lui dit de se lever. On est en 1986. Hein. Donc il est là sur son lit, perclus de son, comment dire, de sa sclérose en plaques. Alors il se tourne, il pose les pieds par terre et il se lève. Il fait quelques pas et il revient se coucher. Et là, il est dans la prière, il est dans je sais pas quoi, enfin le pauvre. Et le lendemain, on le met sur son fauteuil roulant, tout ça. Il y a la messe, bénédiction avec la présence du Christ dans la Sainte Eucharistie. Ramené à la maison, sa femme sort le fauteuil roulant du coffre, le sort, le déplie. Et lui, il sort de la voiture lentement et dit chérie, c'est pas parce qu'on revient de Lourdes, mais je vais mieux, tu vas mieux. Tu peux pas, ça fait des années que tu ne peux plus marcher. Oui, mais j'ai un mieux. J'ai un mieux. Donc il se lève et il marche tout seul jusqu'à la maison. Et sa femme, c'est pas possible et tout ça. Donc, analyse, le rayon, machin, truc. Plus aucune sclérose. Mais la sclérose en plaque, si vous voulez, c'est une. C'est les. Tout le tissu nerveux qui se durcit. Et c'est irréversible. Enfin, voilà. Ou alors cette religieuse qui avait un Parkinson, donc les nerfs qui commencent à sauter les uns après les autres, elle s'occupait d'enfants handicapés. Depuis un certain temps, elle ne pouvait plus conduire parce que sa jambe était trop. Elle ne répondait plus. Et puis le jour. Elle est allée voir sa supérieure pour lui dire « Je ne peux plus m'occuper des enfants, c'est vraiment plus possible. » C'était quasiment... Presque tout d'un côté était brin de balance. Et sa supérieure lui dit « Vous prendrez une feuille ce soir, prenez cette feuille et prions Jean-Paul II et écrivez Jean-Paul II, priez pour moi. » C'était un électroencéphalogramme plus qu'autre chose. Et le soir, je crois qu'elle réécrit. Et le lendemain matin, dans les brumes du sommeil, elle s'habille et elle va à la chapelle. Et puis quand elle est dans le couloir, elle voit son bras autant que l'autre. Et elle sur les de sa chambre, elle est là et elle marche normalement. Et elle arrive à la chapelle. Et vous voyez, quand un vrai miracle, justement, en général, les miraculés longent les murs. Hein. Enfin, voilà. Vous pouvez faire des assemblées en imposant les mains, dites, voilà, soyez guéris, oh, j'étais malade, j'avais un cancer, je suis guéri, mais il n'y a aucun dossier médical avant, il n'y en aura pas après. Voilà, j'avais un cancer, j'avais une grosseur, elle est partie, tout ça, c'est merveilleux, vive Jésus. Voilà, le problème, c'est que l'Église, elle est très, très, très... objectives là-dessus. Et donc voilà, un Parkinson. Et ce qui est poignant, c'est qu'elle dit qu'elle ne pouvait plus voir Jean-Paul II à la télévision parce que quand elle le voyait comme ça, elle disait un jour je serai comme lui et je ne veux pas voir ça. Et donc elle est totalement guérie. Et tout cela, voyez-vous, c'est quand Jésus arrive à la fin de sa vie terrestre. Il va accomplir le signe de Moïse, de l'agneau pascal. Depuis 1400 ans, les Juifs prenaient un petit agneau blanc qui était sacrifié à un seul endroit en Israël, devant l'Arche d'Alliance, au Temple de Jérusalem. Et toutes les familles étaient invitées, celles qui étaient jusqu'à Jérusalem, mangeaient cet agneau. En souvenir de la nuit où le peuple juif avait quitté l'Égypte. Eh bien, Jésus, lui, va le jeudi soir faire ce repas pascal. Donc, ils sont tous debout, habillés comme pour partir en voyage, avec la tunique, la djellaba, et un manteau. Et lors de la messe, Le prêtre a l'aljellaba, qui est l'aube, n'est-ce pas, qui est blanche, et le manteau, qui est la chasuble. C'est le repas pascal, hein, chaque messe. Et donc, l'aîné de la famille, le cadet de la famille, demande à l'aîné pourquoi on mange debout et du pain qui n'a pas gonflé, des herbes amères. Eh bien, parce que lorsque Moïse a été envoyé par Dieu, nous avons quitté l'Égypte, et il raconte toute l'histoire du départ, de l'exode du départ d'Égypte. Et on mange cet agneau parce que le sang de cet agneau avait été mis sur les portes de nos maisons et avait épargné le peuple juif de la colère de Dieu qui avait puni les Égyptiens, qui avait tué tous les bébés juifs, garçons, parce qu'ils étaient trop nombreux, et qui avait demandé à ce que toutes les femmes hébreues, comment dire, qu'on tue tous les bébés mâles des femmes des Hébreux. Ça, c'est l'histoire. Vous savez, quand les Juifs fêtent Pessah, hein, la Pâque, ça va faire donc 3400 ans. Ça rigole pas, hein. Ils sont vraiment fidèles, hein. Eh bien, nous sommes la même religion. Jésus est l'agneau pascal. Et donc, alors qu'ils sont là avec, il est là avec ses 12 apôtres, l'agneau, il le mange. Mais là, à un moment donné, Jésus dit, comme Jean-Baptiste avait dit de lui, hein, Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu, et là, il prend du pain. Et il dit, ceci est mon corps. Il prend une coupe de vin et dit, ceci est mon sang qui va être versé pour vous. Et il signifie par là sa mort. Parce que quand on sépare le corps et le sang, on meurt. Donc, voyez-vous, le Christ, on parle du repas des noces. Qu'est-ce que c'est que ces noces? C'est Jésus qui fait son premier miracle dans le village de Cana, où la Vierge Marie se trouve là. Et où il n'y a plus de vin au repas des noces. Et Marie lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Marie, qu'est-ce qu'elle lui demande? Un miracle de premier ordre, transformer du vin, de l'eau en vin. Eh bien, voyez-vous, ce mariage, c'est Dieu qui se fait homme, qui se marie avec la nature humaine. Donc, quand vous vous mariez, vous signifiez l'amour éternel de Dieu pour ses enfants et ses créatures. Vous comprenez pourquoi Jésus dit à ses apôtres, maintenant, plus de polygamie, plus de divorce. Et alors les apôtres disent, si telle est la condition de l'homme, alors il vaut mieux pas se marier. C'est des bons juifs, hein, ils sont là, et on peut plus répudier sa femme si elle nous plaît plus. Non, parce que c'est l'amour. Et encore maintenant, les femmes juives ne peuvent pas divorcer religieusement. C'est l'homme qui doit la répudier. Eh bien, voyez-vous, Jésus, lui, lors de la première messe, il va dire, je vais mourir pour vous. Et il y a un passage de saint Paul qui dit que le mari doit aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église, a aimé l'humanité. Et que devez être capable de mourir pour elle. Et saint Paul dit, alors là c'est plus discuté, il dit aux femmes, soyez soumises à votre mari. Mais ce n'est pas la soumission de l'esclave, c'est ne pas s'affronter à son mari. À cause de quoi? Eh bien à cause du péché. La femme a ses péchés, l'homme a ses péchés. Et le péché dominant chez l'homme, ça sera quand même toujours la violence et la guerre, plutôt que chez la femme. Et quand saint Paul nous demande aux femmes d'être soumises à leur mari, c'est la soumission de respect et par rapport à ne pas provoquer la querelle et la haine dans le couple, parce que l'homme abusera de son autorité. Vous voyez, c'est dans le péché originel, hein, la parole de Dieu dit, comment dire, il dit à l'homme, tu vas souffrir, tu vas mourir et tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. Et il dit à la femme, ton mari t'écrasera. Voilà. Il prévient le péché. Ce dont on est capable, ce que nous sommes capables de faire en mal.
Et le péché attribué à la femme, c'est lui qui. Enfin, du coup, pour l'homme, c'est la violence.
Oui.
Et pour la femme, c'est plus quoi?
Pour la femme, ça va être comment dire, un égoïsme accaparant, si vous voulez. Elle veut attirer à elle. Et l'origine de cela est toujours bon. Que l'homme ait de l'autorité, c'est bon pour faire le bien. Que la femme puisse, comment dire, être affectueuse, avoir des sentiments pour entourer ses enfants, pour entourer son époux, avoir une séduction naturelle, c'est bon. Mais ensuite, que ça soit comment dire, dans un égoïsme, un égocentrisme, comment dire, c'est destructeur. Et l'homme, d'ailleurs, ou se laissera faire, ou justement méprisera la femme qui veut dominer par la séduction. L'homme domine par l'autoritarisme, la femme domine par la séduction. Et quand la femme ne peut pas dominer par la séduction, elle fait l'omasse. C'est-à-dire qu'elle devient encore plus dure qu'un homme. Je ne sais pas si vous avez eu des supérieures femmes qui étaient autoritaires. C'est une comédie. Il faut être vrai dans la vie. Un homme doit être juste, une femme doit être juste. Et c'est comme ça que nous sommes complémentaires. Et
du coup, cette soumission de la femme
non, c'est pas, c'est la, c'est le reste,
c'est justement
c'est
une forme de protection entre guillemets pour la femme contre le péché du mari dans son peu.
D'une manière négative, oui. Mais d'une manière positive, c'est la femme qui ne va pas s'opposer à son mari. Elle va dire la vérité à son mari et non pas s'opposer pour s'opposer.
D'accord, mais en recherchant toujours la vérité,
En recherchant
c'est
la
le
vérité
mari
et d'être associée à son
la
mari.
vérité.
D'ailleurs, l'indissolubilité du mariage est la clé de cela. C'est-à-dire que l'homme ne pourra jamais plus la renvoyer. Donc elle est protégée dans la nature vertueuse. Dans la vertu positive de la nature, la femme est protégée de l'homme et des abus de l'homme. Voyez, essayez de voir le monde politique, essayez de voir le monde du travail, c'est bien gentil, on fera des lois, des lois et des lois, mais il y aura toujours un. Sans compter justement que. Et là, bon, c'est des images d'Épinal, hein, mais c'est comme ça. Nous, les femmes ont une patience particulière pour leurs enfants. Nier ça, vous voyez, on peut le faire à la télévision, dans les films, dans les feuilletons, dans tout ce que vous voulez, mais. Qu'un homme peut s'occuper de ses enfants, les langer, les consoler, leur parler autant qu'une femme. C'est pas vrai. En nature pure, l'homme est plus direct, plus actif, moins patient que la femme. Alors il y aura des hommes patients, des hommes qui pouponnent, et c'est bien. Mais on ne va pas reprocher à un homme de ne pas pouponner beaucoup. On va pas non. Si vous voulez, c'est.
Oui, on attendra autre chose.
Mais c'est la nature humaine. On pourra toujours réinventer la nature. Elle reviendra. Et dans les crèches, vous avez plus de femmes que d'hommes qui s'occupent des bébés. Flûte. Et dans les infirmières, dans les infirmiers et infirmières, vous avez plus de femmes que d'hommes. Voilà. Et dans les médecins, vous aviez puisque les hommes ne veulent plus travailler, donc maintenant ce sont les femmes qui deviennent médecins. Donc, mais les hommes, voyez-vous, alors par cooptation, hein, quand ils sont professeurs en médecine ou autre, parfois aussi, mais sinon, voyez-vous, un homme sera parfois plus objectif avec son malade, rentrera moins dans une affection qui est une qualité féminine. C'est une femme qui traite ses enfants, elle est, allez, pleure pas, et tout ça. Non, t'es un homme, mon vieux, la pauvre. T'es un homme, ma fille, t'es une fille, t'es le bon. Vous voyez, c'est comme vouloir que dans une cour de récréation, les garçons jouent à la poupée et les filles à Call of Duty. Mais si, ça arrive à force. On aura 10-15% de passerelles. Mais ça ne sera pas jeune du 100%. Hein.
Quand on garde des enfants, on se rend bien compte justement de
la violence.
C'est immédiat.
Mais oui. Un garçon qui voit un bâton, il en fait tout de suite une arme. C'est bête, c'est comme ça. Ensuite, justement, Dieu, lui, prévient. Hein. Ça, vous ne pourrez pas faire ça 36 fois. Et il met des limites. Et il est sévère, il est exigeant, le vrai Dieu, le Dieu d'amour. Il dit, attention, vous voulez faire la guerre ? Vous voulez faire la guerre alors que ce n'est pas pour défendre un innocent, alors que ce n'est pas pour défendre un faible ? Vous voulez faire la guerre par pouvoir, vous voulez faire la guerre pour écraser ? Eh bien, vous ne voudrez pas vivre avec moi. À votre mort, vous me rejetterez. Et là, voyez-vous, c'est peut-être parce que vous êtes dans une paroisse où on cultive la foi sans altération, youpi ou plaboum, l'enfer existe. Et c'est quoi l'enfer ? L'enfer, c'est l'état d'un être humain au moment de sa mort, ou le ciel avec regret. C'est quoi ? Au moment de notre mort, on a choisi entre l'amour et la haine. On a choisi entre détester les autres, manipuler les autres, instrumentaliser les autres et ramener sa vie à soi-même. C'est ça l'enfer. Contrairement à ce que dit Sartre, l'enfer c'est nous, c'est pas l'autre. L'enfer c'est ne vivre que pour nous-mêmes. Alors qu'on n'est pas fait pour ça. Notre nature est extatique, notre nature est faite pour aimer les autres. Pour recevoir aussi de l'amour, mais pour en donner. Et donc l'enfer, c'est de ne pas en donner. C'est mystérieux, l'état d'enfer. Et au moment de la mort, on ne peut plus revenir sur cette décision. Et c'est une décision libre.
Pourquoi vous dites au moment de la mort ?
Parce qu'un état infernal de notre vivant, c'est lorsqu'on a la haine des autres. On est en état de péché mortel, on est mort, en quelque sorte. Mais comme on est encore vivant, et qu'on peut, par notre liberté, nous se convertir et lâcher le mal, on n'est pas encore en enfer. L'enfer, c'est l'état que désire l'âme au moment de sa mort, lorsqu'elle a la haine de l'autre. Et donc, vous avez parfois des représentations qui sont très maladroites ou des expressions comme « Dieu jette quelqu'un en enfer ». Non, c'est un état d'âme, l'enfer. C'est la haine de l'autre.
La pure haine.
La haine de l'autre.
De tous les autres.
Oui, de Dieu et des autres. Hein. C'est mystérieux. Vous dites, oh, ça n'arrivera jamais, tout ça. Ben, non,
mais si on n'aime pas quelqu'un, c'est pas ça qui va nous. C'est vraiment le rejet total.
Si vous n'êtes pas quelqu'un qui vous fait du mal, c'est parce que c'est la justice qui est atteinte. Et vous voulez justice. Mais quand vous détestez quelqu'un qui ne vous a pas fait de mal, mais parce que vous êtes jaloux de lui, en fait, même si d'autres personnes, vous les aimez, vous ne les aimez pas. Si vous voulez, quand vous êtes capable de détester quelqu'un parce qu'il est, il y a quelque chose que vous n'avez pas, c'est que vous n'aimez pas le genre humain. Vous voyez ? Et que c'est une haine prégnante. Hein, ce n'est pas une jalousie passagère. Et Dieu nous avertit de ça. Et quelqu'un qui fait la guerre, imaginez quelqu'un qui décide de faire la guerre, de tuer des gens pour sa gloriole. Vous croyez que Hitler, l'Église n'a aucun droit de dire que si quelqu'un s'est damné ou pas. Mais on peut. Moi, quand je prends l'exemple d'Hitler, je suis tranquille. Enfin, tout le monde est d'accord, j'espère. Enfin, je ne sais pas. Il est probable que Hitler s'est damné. Dans les derniers jours, il était là, on le suppliait de faire l'armistice. Les pauvres Berlinois mouraient. Non, jusqu'au bout, allez, mourez pour moi, mourez pour moi. C'est monstrueux. Hitler était terrible. Oui. Enfin bon. Donc, c'est un exemple de damné, mais il s'est peut-être sauvé. Hein, et peut-être qu'elle a. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que de se sauver? C'est au moment avant de mourir, parce que la mort peut arriver d'un coup. Regardez ces pauvres adolescents qui sont morts brutalement par une ridelle qui les a cisaillés. Hein. Donc, c'est terrible. Il est où le vrai Dieu, le bon Dieu, le Dieu d'amour quand on meurt? Eh bien, Jésus, il est là, il dit ben oui, vous voyez, moi j'ai été flagellé, crucifié et. On a transpercé mon cœur avec un coup de lance. Voilà, la mort, c'est la mort. Et moi, je vous dis qu'il y a une récompense après la mort et que vous continuez à vivre. Et même, je vous aime tellement que la vie éternelle sera avec un nouveau corps. Vous aurez de nouveaux yeux et non seulement votre bonheur sera dans votre âme, comme les anges qui, sans yeux, voient le réel, mais vous aurez à nouveau des yeux, vous aurez à nouveau des visages. Les bébés ressusciteront adultes, les vieillards ressusciteront adultes avec leur visage. Vous voyez, une mère qui perd son bébé, dans la vie éternelle, elle le verra avec son visage d'adulte. Pourquoi? Parce que Dieu veut la beauté. Et c'est nous qui imaginons la beauté. Hein. La beauté, c'est d'être. Tout visage, toute lèvre, toute joue, tout front est beau pour Dieu. Hein. Et nous, on est décomplexés, on est ceci, on est cela. C'est bien dommage. Vous voyez, Mère Teresa, quand on lui donnait des listes d'orphelins, on dit abandonnés, malades, et non viables. Il y avait des bébés qui étaient déformés, tout ça, non viables. Et donc, quand on lui en donnait 50, elle prenait tous les noms viables avant de prendre les autres. Et à un moment donné, c'était un enfant qui était complètement comme ça. Et Mère Teresa le prenait dans ses bras, le prenait sa petite main, et dit oh, regardez comme il est beau. Ouais. Quelle belle âme. Et là, les autres, fou. Vous savez, mais si vous voulez, quand on a une chrétienne comme ça, hein, le bon Dieu nous en envoie une ou deux ou trois par siècle. Hein. Et là, on a eu en 20e siècle, on a eu une sainte, une géante. Vous savez, un jour, il y avait des hindous. Les hindous sont polythéistes, violents, et ils se font des guerres et des pogroms terribles entre musulmans et hindous. Et les hindous sont parfois bien plus violents que des musulmans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ils ont des dieux de la guerre. Hein. Ils ont des dieux du massacre. Hein. Des dieux du massacre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc même les musulmans n'ont pas, ils ont un dieu qui leur dit de tuer leurs ennemis, c'est dans le Coran. Ça, on n'a pas de débat théologique, donc on peut plus parler de nos jours. Les journalistes nous interdisent de parler, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, parce que ceux qui font des attentats contre comme ça, c'est pas non plus le Coran. Le Coran demande de tuer à la guerre, hein. Mais il demande de faire la guerre. Or Jésus n'a pas demandé de faire la guerre. Donc 600 ans après Jésus, ça fait bizarre. Eh bien, un jour, vous avez des hindous qui sont arrivés devant une maison des sœurs missionnaires, là, des missionnaires de la charité, pour les chasser. Des femmes en sari, avec un crucifix sur l'épaule, mais quand même. Et donc, le chef hindou qui était là, vindicatif, avec des jeunes et des bâtons. Quand même, ils n'avaient pas pris d'épée ou... Et Mère Teresa était là, elle était dans cette maison ce jour-là. Elle est sortie au-devant de lui. Elle n'a jamais eu peur de mourir, c'est incroyable cette femme. Et elle le prend et dit, vous restez là dehors, mais lui, viens. Ils ont fait tout le tour, l'orphelinat, l'hôpital, le mouroir. Il est ressorti, il a dit, on part. Comment quand vos mères et vos sœurs feront ce qu'elles font, on les chassera. Parce que s'occuper de gens mourants, tout ça, enfin pour eux, c'est le mal, c'est le karma, ils sont foutus. Et voilà. Eh bien, vous voyez, le corps sanguinolent du Christ sur une croix, ben, on ne peut pas ne pas le représenter, parce que c'est la preuve d'amour et de la proximité de Dieu. La venue de Jésus-Christ, victoire de la vie, la naissance du Christ, espérance du peuple juif et peuple de l'Alliance, l'accomplissement du mystère pascal par la croix et la résurrection, et les noces de l'agneau de Dieu et de l'humanité. Vous voyez, Dieu qui se fait faible, qu'on dépose dans le mangeoir d'animaux, dans une crèche où il y a du foin, où il y a du fumier. Dieu qui se fait flageller, Dieu qui se fait crucifier. Eh bien, voyez-vous, le mariage chrétien, pourquoi il a cette hauteur? Parce que le mariage entre deux baptisés est indissoluble absolument. Entre deux non-baptisés, on estime qu'ils peuvent mieux connaître l'amour et on va leur permettre de se remarier. Deux non-baptisés, si un des deux demande le baptême et que l'autre le quitte ou le persécute, attention! Celui qui demande le baptême doit être vertueux et innocent. Il peut demander à se marier avec un baptisé. Deuxième mariage. Eh bien, entre deux baptisés, vous êtes censé connaître le prix de l'amour. Vous êtes censé vous pardonner 77 fois 7 fois. Donc vous êtes mal barré. C'est les noces de l'agneau. Voyez, mais oui, mais de nos jours, dans le monde contemporain, c'est pas possible. Il y avait une députée allemande qui avait dit: je propose un mariage de 7 ans renouvelable par contrat. Mais c'est pas un mariage, c'est un pax. Le pax, c'est quoi? Ben, c'est un avantage fiscal lié au concubinage. Mais le mariage, c'est à la vie et à la mort. C'est pour ça que le mariage civil ne suffit pas pour deux baptisés. Et dans l'histoire de la France, il y a une dispute entre la religion et l'État, parce que dans d'autres États, on considère le mariage religieux comme le mariage civil. Quand on se marie religieusement, le ministre du culte envoie les papiers à l'État civil et on est enregistré comme marié. En France, on a une opposition vexatoire, parce que on bégaye le consentement. Or, il est important que les effets civils et sociaux du mariage existent. Donc, on ne méprise pas totalement le mariage civil. Mais l'Église regrettera toujours qu'il y ait un échange des consentements à la mairie. Parce que ça veut dire quoi? On se marie deux fois?
C'est le seul pays.
L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, des régions d'Angleterre, aux États-Unis. Je crois qu'aux États-Unis, il y a des États où le mariage religieux est mariage civil. Au Japon, au Liban, dans les pays d'Orient non laïcisés. En Algérie, je pense qu'on a... Enfin, sauf dans les endroits où ils ont voulu imiter, n'est-ce pas, la laïcité occidentale. Eh bien, ils se trompent, puisque je crois qu'en Suède, enfin, il y a au moins un tiers des pays européens qui considèrent le mariage religieux comme un mariage civil. Un tiers, c'est quand même beaucoup, hein. Et tout ça au nom de... pourquoi? Mais parce que nous nous disons, il y a un être intelligent qui existe, il a fait la sexualité animale, et il en a fait une occasion d'amour spirituel avec une âme. Alors, est-ce qu'on va regretter d'avoir un corps animal? Mais pas du tout, c'est notre nature. Qui fait l'ange fait la bête. Il dit, bah oui, enfin vous êtes là, vous êtes en train de vous dire tout ça, mais vous êtes célibataire, vous. Vous avez renoncé au mariage, comme des moines et des moniales. Et oui, parce que l'amour spirituel n'est pas forcément dans un amour, comment dire, corporel. Et moi, je suis marié d'un mariage spirituel avec l'amour. Et du coup, je n'ai pas d'amour particulier. Mais vous, vous avez légitimement le droit d'avoir un amour particulier. Mais vous gardez, vous devez garder un amour universel, spirituel. D'où le... bien que le Christ nous dit on n'a qu'un seul Père, et attention, eh bien...